beaucoup content d'être ici parmi vous, en train d'étudier l'épître de Jacques. Ça fait quelques semaines que nous étudions cette épître. On a fait une pause la semaine passée pour les baptêmes et on est replongé dedans cette semaine. Donc si vous voulez trouver Jacques chapitre 3, si vous avez les Bibles devant vous, ce serait très utile de pouvoir suivre cela, pas juste me croire sur parole, mais voir que c'est bel et bien ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Il y a des feuilles normalement pour les ados qui se trouvent sur le baptistère, donc Steve va les distribuer, peut-être ils sont partis quelque part. C'était mieux avant. Est-ce que cela vous est arrivé de dire cela? Non, jamais, non. Dans la société, on dit ça, n'est-ce pas? Lorsque les gens savaient jouer, les enfants savaient jouer dans la rue. Et maintenant, ce n'est plus possible. Lorsqu'on avait un moment de famille de qualité, sans les écrans, c'était mieux avant. Le bon vieux temps. Et ça, on peut parler dans ces termes de l'Église parfois. On peut se dire, mais oh, si seulement on vivait à l'époque des apôtres. Oh, si on pouvait revenir à l'essentiel de l'Église, la pureté de l'Église primitive. Oh, ça serait quelque chose. Ne pas avoir 20 siècles d'écart de ce moment-là jusqu'à maintenant. Mais vous savez, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Les chrétiens auxquels Jacques écrit dans cette lettre, on a vu, ils avaient beaucoup, beaucoup de problèmes dans les églises. Nous, on peut peut-être se dire, mais oh, c'était mieux avant. Ce n'est pas le cas. Ces croyants se contentaient d'avoir une foi sans la mettre en pratique. Ils se disaient croyants, non pratiquants. Ils étaient tout à fait contents de dire cela. Ils avaient du favoritisme envers les riches. Ils méprisaient les pauvres. Ils voulaient enseigner les autres. Ils pensaient qu'ils étaient des autorités dans un domaine ou un autre. Mais ils n'arrivaient pas à maîtriser la langue. Et aujourd'hui, on va voir qu'ils se prétendent être sages, mais ils sont très très loin de la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas seulement eux, mais c'est nous-mêmes aussi. Nous vivons souvent les mêmes choses. Et donc nous mettons à l'écoute maintenant de la parole de Dieu qui va nous instruire, nous éduquer, nous corriger. Et donc nous allons prier et puis nous allons lire le passage ensemble, en priant ensemble. Notre Père, nous te louons pour ta parole puissante. Nous te louons parce que ta parole que tu as donnée à Jacques reste d'actualité pour nous ici en 2018. Et nous te prions que nous ayons des oreilles pour entendre ce matin, que nous soyons attentifs à ta voix. Et que tu nous fasses du bien, Seigneur, que tu nous changes, que tu nous transformes. Au nom de Jésus. Amen. Bah, lisons, si vous avez la Bible comme ça, devant vous sur la page 1218, sinon c'est projeté derrière moi. Jacques 3, verset 13, jusqu'à 4, 12. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous voyons ici une église remplie de problèmes. Et Jacques, il a trois exhortations pour ces chrétiens. Trois exhortations pour nous ce matin. La première, c'est arrêtez de vous estimer sages. La sagesse de Dieu mène à la paix. Arrêtez de vous estimer sages. La sagesse de Dieu mène à la paix. Au verset 13 jusqu'au 4, 3. Au verset 13, Jacques pose une question. Vous avez vu cela. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Évidemment, les chrétiens qui ont reçu cette lettre auront répondu « Mais moi je le suis. Je fais preuve de sagesse, de discernement, d'intelligence spirituelle. » Dans notre église, il semble que tout fonctionne par des formulaires Google pour l'instant. Donc si on avait renvoyé le formulaire Google en disant « Cochez vos qualités », ils auraient coché « Sagesse ». Intelligence. C'est ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Et c'est souvent ce que nous pensons de nous-mêmes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est tellement embêté lorsque les autres ne suivent pas nos conseils? C'est parce qu'on pense qu'on est sage, rempli de sagesse. Et Jacques nous arrête net au verset 13, n'est-ce pas? Quelqu'un pense-t-il être sage, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il dit, attention, il faut que la sagesse se voie par les œuvres, par nos actes, nos attitudes, et surtout par une douceur. Vous avez vu ça au verset 13? La douceur de la sagesse. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la douceur qui fait la sagesse. Dans la vie, il y a des choses qui vont ensemble, il n'y a pas moyen de les séparer, les frites et la sauce andalouse, par exemple. Mais si Jacques nous met deux choses ensemble, il dit sagesse et douceur, il n'y a pas moyen d'avoir la sagesse si vous ne faites pas preuve de douceur. Sinon, ce n'est pas la vraie sagesse que vous possédez. Car il y a deux types de sagesse, selon Jacques. La sagesse de Dieu, qui produit la douceur, et la sagesse terrestre. Et versets 14 à 16, Jacques nous fait un portrait de cette fausse sagesse. Lisons ces versets, versets 14 à 16. « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute sorte de mauvaises actions. » Jacques dit, si vous produisez des actes, des œuvres de douceur, très bien, vous faites preuve de la vraie sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, de la rancune, de l'amertume, de la jalousie, de l'envie, un esprit de dispute, et du ne vous vantez pas en prétendant que vous êtes quelqu'un de sage, ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu, ça. Elle est terrestre, celle de ce monde, le monde qui veut vivre sans Dieu, le monde qui dit que nous sommes des dieux. La loi du plus fort, le désir d'être meilleur que les autres, terrestre, charnel, parce que cela vient presque instinctivement, cette volonté de s'imposer, cette volonté d'être supérieur aux autres, d'être bien vu par tout le monde et de rabaisser les autres. Et Jacques dit même que cette sagesse est diabolique, que cela vient du diable. Celui qui, dès le commencement, a voulu s'opposer à Dieu, qui a voulu semer la discorde dans notre relation avec Dieu et ensuite dans nos relations les uns avec les autres. Et je dois avouer devant vous qu'il y a 2 ans, lorsque j'avais lu ce verset dans mon culte personnel, que ça m'avait profondément travaillé. Un esprit de dispute, un zèle amer. Et je me rendais compte que j'étais dans une compétition constante avec quelqu'un d'autre qui était dans le ministère. J'enviais ses dons. Je voulais faire mieux que lui et que lui et les autres le remarquent. C'était dégoûtant. Selon ce verset, je faisais preuve d'une sagesse, mais il s'agissait de la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce que vous voyez les mêmes choses dans votre cœur? De l'amertume. Vous n'arrivez plus à parler à quelqu'un ici à l'église suite à quelque chose qui s'est passé. De la rancune, un esprit de compétition. Cela va produire des dégâts, verset 16. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Cela ne restera pas au niveau de nos pensées, cela va se traduire dans nos actions, de la frustration, de la colère envers nos enfants, notre épouse, l'envie de se comparer à d'autres, à faire mieux que les autres, un désir de rabaisser les autres. C'est la sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais de ce monde. Jacques nous montre ensuite à quoi ressemble la vraie sagesse. Versets 17 et 18, lisons ces versets. La sagesse d'en haut, par contre, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Il est très frappant de voir ici que la sagesse est relationnelle. Vous avez remarqué ça, parfois on pense que la sagesse, c'est voilà, d'avoir beaucoup de connaissances, de savoir donner des conseils, comment agir dans telle ou telle situation difficile. Mais ici, c'est comment on doit être en relation les uns avec les autres d'une manière qui glorifie Dieu. C'est ça la vraie sagesse, selon Dieu. Parce que la vie chrétienne est relationnelle, foncièrement, d'abord avec Dieu, et ensuite les uns avec les autres. Nous, on était partis un peu en vacances cette semaine, ça nous a fait du bien. Et, on était avec Lola et Caleb, les enfants. Et Lola, lorsqu'on est allé à la piscine, et Lola voulait vraiment parler aux gens qui étaient dans la piscine, les autres. Nous, on était là en train, on voulait un moment calme en famille, juste entre nous. Et Lola voulait parler à tout le monde. Et elle dit, quand est-ce qu'on peut parler avec les gens là? Et nous, non, on va pas faire ça. Je sais pas, c'est ce qui passe par votre esprit. Lorsque on vous dit que la vie chrétienne est relationnelle, dans le sens qu'il faut être en relation avec les autres. Parfois les gens aiment ça, comme Lola, elle veut être en relation avec tout le monde. Mais parfois les gens sont un peu inquiets par rapport à ça. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement par rapport à cela. Mais Jacques nous dit, si nous voulons avoir la sagesse qui vient d'en haut, cela va se traduire dans nos relations, dans nos contacts les uns avec les autres. Jacques dit que la sagesse est pure. Il n'y a rien à reprocher à cette sagesse. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, en ne recherchant pas la dispute, mais la paix. Modérée, une capacité de dire que les autres ont raison. J'avais lu cette semaine une histoire par rapport au président Abraham Lincoln, qui avait donné un ordre dans une guerre. Et un de ses Voilà, le général disait non, je ne vais pas obéir à cet ordre parce que c'est stupide. Et le président était choqué, mais il dit, parce que je connais bien la personne, s'il dit que c'est stupide, il a probablement raison. Il était prêt à aller en parler avec la personne, prêt à écouter l'autre pour savoir son point de vue. Il n'a pas poursuivi ce plan d'action. Est-ce que nous sommes prêts à nous remettre en question ou est-ce qu'on veut toujours avoir raison? Modérée, conciliante, capable de voir le point de vue de l'autre, capable d'écouter l'autre. Et cette sagesse est pleine de miséricorde, de bons fruits, remplie jusqu'au bord de miséricorde envers les autres. Et cela produira de bons fruits dans notre vie, des actes concrets d'amour. Et enfin, sans duplicité ou hypocrisie, ce que nous sommes à l'Église, c'est ce que nous devrions être tout au long de la semaine, et vice-versa. Ce que nous disons à quelqu'un en tête-à-tête, ça doit être la même chose que nous disons dans une réunion avec plusieurs. Lorsque les gens viennent vers nous, ils doivent pouvoir s'attendre à une réponse honnête de notre part. Ils ne doivent pas nous entendre dire une chose et puis apprendre qu'on a dit le contraire à quelqu'un d'autre. C'est ainsi la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas le fait de prodiguer de bons conseils pleins de sagesse, c'est pas ça, mais plutôt d'agir envers les autres d'une manière qui glorifie Dieu. Et quel est le fruit de cette sagesse? Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et je pense que ça, c'est la clé pour cette sagesse dans nous qui cherche la paix avec les autres. Si nous faisons preuve de cette sagesse, nous allons marcher dans la justice et dans la paix en recherchant la paix. Pas au dépens de la vérité. Parfois, il faut avoir un désaccord parce que la vérité nous le demande. Mais si la vérité n'est pas en cause, nous devons rester unis, cherchant la paix. Il faut se poser la question, ai-je cette sagesse qui vient de Dieu? Ou fais-je plutôt montre de la sagesse de ce monde? À l'Église, recherchons-nous la paix ou cherchons-nous à avoir raison? Il faut savoir que les anciens n'ont pas fait exprès que ce passage tombe le même jour que la réunion annuelle des membres qu'on aura tout à l'heure. Mais ça tombe à point, n'est-ce pas? Combien de réunions d'église ont été déchirées à cause des disputes? Cette sagesse qui vient de ce monde, des gens qui voulaient avoir raison. Mais est-ce que nous allons démontrer la sagesse qui vient de Dieu en recherchant la paix? Ou allons-nous nous disputer? Ou dans le couple? Je pense que ces versets s'appliquent aussi à nos couples si nous sommes mariés. Faisons-nous preuve dans notre couple de la sagesse qui vient d'en haut? Est-ce que nous pourrions décrire notre comportement vers notre conjoint comme étant pur, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde, de bons fruits, sans aucune duplicité et d'hypocrisie? Si ce n'est pas le cas, nous devons confesser cela devant Dieu et à notre conjoint. Un mariage ne peut pas survivre si les conjoints font preuve de la sagesse de ce monde. Et avant de dire « c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle », réfléchissez d'abord à votre propre attitude. Et au verset 1 à 3, Jacques nous montre que ces disputes étaient entrées vraiment dans l'Église. Et ça fait très mauvais signe. Les conflits sont signes de la sagesse du monde. Relisons les versets 1 à 3 du chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y avait un pasteur qui a écrit un livre. Il disait qu'un homme voyait ses enfants jouer dehors et se disputer entre eux. Et le papa leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le jeu? Il dit, moi, nous jouons l'église. C'est un jeu où on fait semblant. Et c'est triste. D'avoir des enfants qui grandissent avec le sentiment que à l'Église, on se dispute. Et merci Seigneur que ce n'est pas le cas ici, dans notre Église, qu'on vit l'unité autour de la vérité de l'Évangile. Mais les luttes, les querelles, ça peut exister, les passions qui combattent entre nous. Et il n'est pas très probable que les chrétiens ici étaient en train de se tuer entre eux. Il dit, ils étaient meurtriers, envieux, mais c'est un langage violent parce qu'il y avait des disputes violentes. Et ça peut faire référence à la colère que les gens se manifestent les uns envers les autres. Et c'est peu que ça existe parmi nous, mais on ne le voit pas très souvent. Et ces gens désirent ce que les autres ont, ils sont envieux. Ils font preuve de la sagesse de ce monde. Et verset 3, Jacques dit, vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cela parle de la prière, ils sont en train de prier, nous ne savons pas exactement ce qu'ils demandent à Dieu, mais Dieu ne les exauce pas, parce qu'ils prient pour eux-mêmes. Peut-être c'est le genre de prière, Seigneur, fais fructifier mes ressources financières, afin que je sois plus riche que les autres. Seigneur, fais que mon enfant se comporte bien à l'église, ou en tout cas mieux que les autres. Dieu ne va pas répondre à de telles prières. Si nous voulons dépenser les choses, nous voulons poursuivre nos passions, nos désirs pécheurs. Et si nous nous disputons, c'est un très mauvais signe. Pas seulement à cause des dégâts que cela peut semer dans l'Église, mais parce que Dieu voit notre attitude qui se cache derrière. La réalité spirituelle qui produit cela. Et il nous donne la deuxième exhortation. C'est verset 4 à 10, il dit « Arrêtez de tromper Dieu, revenez à lui. Arrêtez de tromper Dieu, revenez à lui. » Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible tout entière qui sont aussi forts que ce passage ici. Jacques appelle ces gens, verset 4, adultères. Ce n'est pas que ces personnes aient trompé leur conjoint, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont trompé Dieu. La relation entre Dieu et son peuple est souvent décrite dans la Bible comme un mariage. Aucune connotation sexuelle, mais une relation d'amour et de tendresse et de fidélité absolue. Et comme une femme n'accepte pas que son mari s'intéresse à d'autres femmes, Dieu ne tolère pas de rivaux. Jacques pose la question en verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et il continue, « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il n'est pas possible d'aimer Dieu et le monde. » Ici, aimer le monde ne veut pas dire apprécier les choses, les bonnes choses que Dieu nous donne dans la vie. Lisez le livre d'Ecclésiaste, par exemple. Vous voulez voir qu'on doit apprécier les bonnes choses que Dieu nous donne. Cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas aimer les gens qui sont dans le monde. Nous devons aimer les gens qui sont dans le monde. Mais ici, c'est le désir de vivre pour ce monde, pour ce que le monde peut nous offrir. Que ce soit l'argent, le statut, standing social, la vie de famille, le confort. En recherchant notre satisfaction, en adoptant la mentalité de notre monde, en poursuivant la carrière avant toute chose. Peut-être c'est mentir, truquer les chiffres pour plaire au patron. Vivre pour l'argent et le confort. Vivre dans l'immoralité sexuelle, concubinage, boire à l'excès. Tout en se disant croyant. Jacques dit qu'il est impossible de vivre pour Dieu et pour le monde. Et nous avons déjà donné cette illustration pour ce livre, mais est-ce que vous avez essayé de faire le grand écart? Peut-être en tant qu'enfant, vous avez fait ça en gymnastique, le grand écart, lorsqu'on met, je ne vais pas donner voilà, toute la démonstration maintenant, mais on peut imaginer quelqu'un qui est au bord de l'eau, il y a un bateau, il a un pied dans le bateau, un pied sur le port, et le bateau commence tout doucement à glisser. Et on pense, tout va bien, mais on va finir par tomber dans l'eau, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'avertissement que Jacques nous donne ici. Peut-être on se berce d'illusions, on dit, oui, je peux vivre pour Dieu et pour le monde. Mais Jacques dit, non, impossible. Il nous appelle des hommes partagés, des âmes partagées au verset 8, si nous essayons de faire cela. Impossible, adultère. Et Dieu est jaloux. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Probablement le Saint-Esprit en nous. Dieu est jaloux. Et c'est une bonne jalousie. Et un mari qui n'est pas jaloux de son épouse, qui se met avec un autre homme, n'aime pas vraiment son épouse. La bonne jalousie provient de l'amour. Et Dieu est jaloux pour nous. Et l'adultère est quelque chose de terrible. Je me souviens quand j'avais découvert qu'un membre de ma famille avait vécu dans l'adultère pendant des années, sans que personne le sache. Et je me rappelle tous les événements familiaux qu'on a passés ensemble, comme si rien n'a été. Et de découvrir cela, la trahison. Et c'est comme si Jacques est en train de dévoiler l'adultère spirituel de certaines personnes ici ce matin. Et peut-être vous le savez dans votre cœur. Peut-être que du point de vue extérieur, on ne se douterait de rien. On vient de temps en temps à l'église. On fait la prière de temps en temps. Mais on sait qu'on vit pour le monde. Et que faire alors, si ça c'est vous ce matin? Mais dans ce passage, il y a une très, très bonne nouvelle. C'est qu'on peut revenir à Dieu. On peut revenir à Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour ceux qui sont prêts à avouer qu'ils ont un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu, Dieu dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. C'est une promesse. C'est pour cela qu'il faut revenir à Dieu de tout son cœur. Et les versets 7 à 10 représentent une section unique dans le livre, un appel à revenir à Dieu de tout son être, de ne plus essayer de faire le grand écart entre Dieu et le monde. Relisons ces versets et ressentez l'impact. Soumettez-vous, verset 7, donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés, irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si nous vivons en adultère spirituel, il nous faut nous soumettre à Dieu. Revenir à lui. Nous humilier devant lui. Résister au diable. Nous approcher de Dieu, et Dieu s'approchera de nous. C'est la promesse pour celui qui revient à Dieu. Nous devons reconnaître notre péché, être presque dans le deuil à cause de notre misère, purifier nos cœurs et nos mains, nous débarrasser des péchés dans lesquels nous marchions. Et si c'est votre cas ce matin, il faut vous humilier devant Dieu, aujourd'hui. Et il vous élèvera. C'est une promesse. Pendant la préparation de cette prédication, j'ai eu un peu du mal pour savoir comment véhiculer ce message. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de gens dans l'assemblée qui ne vivent pas dans l'adultère spirituel. Comment faire pour ne pas les inquiéter inutilement? Mais je pense que c'est bien que nous entendions tous cet appel à revenir à Dieu, cet avertissement que vivre pour le monde nous rend ennemis de Dieu. Peut-être qu'en entendant cet avertissement, nous nous rendrons compte d'une trajectoire dangereuse dans notre vie et nous pouvons revenir à Dieu. Ou nous verrons à quel point il est grave de nous éloigner de Dieu et à quel point il est essentiel de vivre pleinement pour lui. Jacques dit, arrêtez de tromper Dieu. Revenez à Dieu aujourd'hui. Et il termine le passage en revenant un peu sur le thème qu'on a vu il y a 3 semaines, la langue, comment nous utilisons notre langue. Et comment la sagesse qui vient de Dieu doit-elle impacter nos paroles. Au verset 11 et 12, il dit, arrêtez de dire du mal des autres. Dieu est le seul qui peut juger. Arrêtez de dire du mal des autres. Dieu est le seul qui peut juger. Nous voyons le commandement au verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. » Pas de médisance, pas de paroles blessantes, pas de blagues qui font mal, pas de critiques des autres dans leur dos. Tu as entendu ce que X a fait, a dit. Mais pourquoi ne faut-il pas parler en mal des autres? Car, Jacques dit, verset 11, « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle-moi mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Si nous parlons mal d'un frère ou d'une sœur, nous parlons mal de la loi de Jésus. Les deux commandements les plus grands, c'était aimer Dieu de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Et Jacques a déjà cité cela. Et si nous estimons que nous ne devons pas démontrer de l'amour envers les autres, nous sommes en train de déchirer la loi que Jésus nous a donnée pour la remplacer avec la nôtre, qui est évidemment qui est meilleur. C'est ça ce que Jacques est en train de dire. Nous devenons juges de la loi, mais il y a un seul juge, verset 12, un seul législateur est juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu qui juge ton prochain? Dieu est le seul juge, le seul qui peut définir la loi divine, celui qui peut sauver et perdre, qui peut sauver par la mort de son fils et qui peut faire perdre les gens en les envoyant en enfer. Dieu en a le droit, il peut définir la loi, mais nous, nous n'avons aucun droit de le faire. Car qui sommes-nous finalement pour prétendre à cela? Nous ne sommes pas Dieu pour passer un jugement sur notre prochain. Maintenant, il ne faut pas mal interpréter ce que Jacques dit ici. Il n'est pas en train de dire que le chrétien ne devrait pas exercer du discernement, de faire la distinction entre la fausse doctrine et la vraie. Il doit le faire. Il doit aussi pouvoir, avec amour, montrer du droit un comportement chez l'autre qui n'honore pas Dieu. Si, par exemple, une personne vit dans l'adultère ou en concubinage, et la Bible exhorte même les responsables de l'Église à prendre des mesures de discipline contre ceux qui refusent de se repentir d'un péché grave. Mais ce n'est pas de ça que Jacques parle ici. Il nous met en garde contre un jugement calomnieux envers quelqu'un d'autre. Fait pour s'exalter et assouvir ses passions. Sommes-nous tentés parfois de dire du mal des autres à l'Église? Mais écoutons-nous avec intérêt lorsque les autres critiquent un frère ou une sœur. Peut-être que ce n'est pas nous qui prononçons les paroles, mais nous écoutons avec plaisir lorsque quelqu'un nous dit quelque chose. Mais nous devrions réagir en disant « mais je ne pense pas que nous devrions parler ainsi des autres ». Je préfère ne pas écouter cela. Cela coupe court à la médisance. Jacques dit, arrêtez de dire du mal des autres. Est-ce que cela vous concerne ce matin? Dites-vous des choses sur les autres que vous ne devriez pas? Jacques dit que cela doit s'arrêter. Un tel comportement démontre une sagesse de ce monde. Pas la sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse qui provoque des disputes. Tandis que la sagesse de Dieu apporte la paix. Mais avant de nous arrêter, nous avons vu la sagesse qui vient d'en haut. Et peut-être cela vous a rappelé quelqu'un qui a incarné parfaitement cette sagesse pure, modérée, conciliante, pacifique, qui recherche la paix. Quelqu'un qui a été parfait dans ses relations avec les autres, qui n'enviait personne, qui ne gardait jamais rancune. Jésus-Christ, lui, est notre sagesse. Il est devenu notre sagesse en 1 Corinthiens, chapitre 1. Notre justice, notre sagesse. Paul dit ailleurs dans le Nouveau Testament qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse. C'est Jésus qui est l'incarnation de cette sagesse qui vient de Dieu. Et si nous nous rendons compte que nous faisons preuve trop souvent de la sagesse qui vient de ce monde, nous ne devons pas redoubler d'efforts pour avoir une sagesse qui vient de Dieu. Nous devons revenir à Dieu pour avoir le pardon de nos péchés, pour recevoir ce que cette sagesse incarnée a fait sur la croix. Jésus qui a payé pour nos péchés. Lui qui est mort pour prendre la colère de Dieu qui nous était destinée, pour nous donner la vie éternelle. C'est vers lui que nous devons regarder pour être sauvés et pour savoir comment vivre dans la vie chrétienne. Les disputes et les querelles au sein de l'Église sont un signe préoccupant d'un amour pour le monde, un amour que Dieu, en tant qu'époux jaloux, ne tolère pas. Il faut que nous voyions à quel point faire le grand écart dans la vie chrétienne n'est pas possible. Et merci au Seigneur qui nous laisse revenir à lui. Homme irrésolu, âme partagée, revenez à Dieu. Il s'approchera de vous. Et vivant pleinement, entièrement pour Dieu, sans partage ni compromis, cherchant la sagesse qui vient de Dieu, qui amène la paix dans nos relations les uns avec les autres. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ce passage. Nous te louons parce que tu mets le doigt sur les choses dans notre vie qui ne vont pas. Et nous voulons les confesser devant toi maintenant. Trop souvent, nous faisons preuve d'une sagesse qui vient de ce monde, qui est charnelle, terrestre, diabolique, qui ne recherche pas la paix, mais notre propre gloire. Et nous voulons te demander pardon. Et pour ceux et celles qui sont dans la salle, qui vivent actuellement en adultère spirituel, nous te prions qu'ils puissent revenir à toi dès aujourd'hui, sachant que tu es un Dieu de grâce, qui fait grâce aux humbles. Et nous te prions que nous puissions faire preuve de cette sagesse qui vient d'en haut, dans nos relations les uns envers les autres. Que tu nous donnes cette sagesse, Seigneur, qui était parfaitement présente en Jésus, que cela puisse le devenir également en nous. Sois à l'œuvre dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.